Benjamin Louvet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gérant chez OFIAM. On va parler avec vous de stratégie sur les marchés de matières premières. Est-ce qu'il y a eu, de votre point de vue, des mouvements significatifs, si on fait un petit bilan pour commencer de cet été?
Oui, les mouvements ont été très significatifs dans à peu près tous les secteurs des matières premières. Si on commence par le marché, je pense peut-être le plus suivi, qui est le marché du pétrole, on a des cours qui se sont plutôt repris. Alors ça peut être un peu contre-intuitif parce qu'avec les inquiétudes qu'il y a actuellement sur les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine notamment, on aurait pu penser que les craintes que ça amènerait sur la croissance auraient un effet sur les prix du pétrole. Néanmoins, il y a d'autres sujets qui sont en cours et notamment les tensions entre les États-Unis et l'Iran. Et les États-Unis ont adopté une politique très dure vis-à-vis des Iraniens et on a déjà vu la production, les exportations en tout cas iraniennes fortement baisser. Et puis dans le même temps, on a aussi le Venezuela qui est un gros producteur qui souffre beaucoup des sanctions américaines et de sa situation économique plus généralement. Donc on a eu des grosses pertes de production dans ces deux pays, et ce qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec des prix du pétrole qui repartent de l'avant et qui pourraient continuer à progresser compte tenu de la fermeté affichée par Washington vis-à-vis de l'Iran. Alors si on regarde maintenant sur les autres classes, notamment par exemple sur les métaux de base, là pour le coup l'effet des tensions commerciales a été très important. Pour deux raisons. D'abord parce que ça menace effectivement la croissance économique mondiale. Et alors que sur le pétrole, on a une tension sur l'offre qui justifie que les prix restent élevés, sur les métaux, c'est un petit peu différent. On a donc eu des fortes corrections sur la plupart des métaux qui se sont également concrétisées du fait de la crainte de voir les émergents ralentir. On a eu des craintes sur la Chine, il y a également eu la Turquie qui a été concernée, et puis il y a eu effectivement aussi un certain nombre de taxes qui ont été annoncées sur l'acier, sur l'aluminium, et qui ont très fortement pénalisé ces marchés.
Donc on retrouve peut-être une différence entre ce qui se passe effectivement sur le marché pétrolier. Donc la lecture globale n'est pas forcément évidente, puisque quand on regarde le cuivre, c'est vrai qu'on a tendance habituellement, en tout cas on avait tendance, on va dire, on va le mettre au passé, quand il y avait ça sur le cuivre, on disait, ah attention, il y a des risques sur l'économie.
Oui, c'est toujours ça. Mais la vraie différence, effectivement, c'est que l'offre de pétrole est contrainte aujourd'hui. On a la même problématique sur la demande, savoir si cette demande va se maintenir avec la croissance économique. Mais sur le pétrole, la vraie différence, c'est que l'offre est contrainte et qu'on commence à se demander si les pays de l'OPEP et les pays producteurs de pétrole, d'une façon générale, vont pouvoir faire face à la demande. Pourquoi? Parce qu'on constate malgré tout que Donald Trump et l'Arabie Saoudite auraient discuté, selon les tweets de Donald Trump, pour que l'Arabie Saoudite augmente sa production de 2 millions de barils. Aujourd'hui, beaucoup d'intervenants se demandent si l'Arabie Saoudite est capable d'augmenter cette production. Et d'ailleurs, dans les chiffres, pour l'instant, on ne voit pas cette production arriver. Si on manque d'offres, même si la demande ralentit un petit peu, malgré tout, le marché risque de rester en tension, alors que sur les métaux, on n'a pas ce genre de contraintes sur l'offre.
Alors, on regarde aussi de près ce qui se passe sur le pétrole ou le gaz de schiste aux États-Unis, justement. On sait qu'en fonction des prix du pétrole, justement, il y avait des investissements ou pas. Est-ce qu'on a aujourd'hui une visibilité, justement, sur les États-Unis, de ce point de
Oui,
vue-là?
alors on a une visibilité, oui et non. C'est-à-dire que le scénario commence à s'affiner. Nous, chez OFI Asset Management, ça fait longtemps qu'on est relativement sceptique sur ce secteur. Et là, il y a un certain nombre de facteurs qui vont plutôt dans notre sens. Le premier facteur, c'est que, en fait, aux États-Unis, le pétrole de schiste ne se développe plus d'une façon générale. Il ne se développe que sur un seul bassin, qui est le bassin permien. La conséquence de tout ça, c'est que la production du bassin permien a énormément augmenté et qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des infrastructures logistiques, notamment les pipelines, pour sortir ce pétrole, qui sont insuffisantes. Et ça a une conséquence majeure, c'est qu'il faut transporter le pétrole soit par rail, soit par camion, ce qui a un coût beaucoup plus élevé, ce qui fait que les acheteurs sont prêts à payer moins cher ce pétrole. Et cette différence devient extrêmement importante. Aujourd'hui, on a quasiment 18 dollars d'écart entre le prix du baril de pétrole du bassin permien et le prix du baril WTI. Ce qui veut dire que quand le baril du WTI est à 70 dollars, un baril du bassin permien ne vaut que 52 dollars. À 52 dollars, c'est encore un peu juste pour les compagnies pétrolières de schiste d'une façon générale, pour être rentable. Ça devrait donc hypothéquer en partie la poursuite de la croissance du pétrole de schiste dans le bassin permien. Ces nouveaux pipelines, il y a des projets en construction, n'arriveront pas avant fin 2019 et on pense même, nous, que ça pourrait prendre un peu plus de retard, ce qui veut dire que cette contrainte est là pour durer et qu'elle justifie ce différentiel de prix et que le pétrole de schiste ne sera sans doute pas la solution au manque de pétrole qui ne manquera pas d'arriver à partir de fin 2019.
Ce qu'on a souvent évoqué derrière, hein, c'est cette stratégie américaine, le fait qu'il y avait la volonté d'autosuffisance et que ça pouvait même changer la donne au niveau géopolitique si les États-Unis avaient réussissé cette autosuffisance pétrolière.
Oui, mais cette autosuffisance est un mirage à mon sens. Si on regarde les chiffres, hein, tout simplement, aujourd'hui les États-Unis consomment à peu près 19 millions de barils par jour de pétrole, ils en produisent à peu près 11 millions. Et donc, même si on a des exportations qui augmentent de la part des États-Unis, ils restent dépendants du pétrole étranger et ils devraient le rester pour longtemps. On constate effectivement, je le disais, que la plupart des bassins de production de pétrole de schiste ont déjà commencé à reculer, c'est-à-dire qu'aucun bassin, à part le bassin permien, n'a retrouvé son niveau de production de 2015. Donc, il y a aujourd'hui en plus des questions qui commencent à se poser sur le bassin permien, qui avait beaucoup augmenté, mais en réalité, on s'était focalisé sur les meilleurs gisements et on avait peut-être un peu forcé en termes techniques, et on arrive un peu aux limites des innovations techniques en la matière. Le patron de Schlumberger a fait un discours sur ce sujet il y a quelques jours à New York. Et donc, l'autosuffisance pétrolière des États-Unis reste, à mon avis, un vœu pieux dans l'état actuel des choses et des connaissances.
On parlait d'inflation avec le pétrole, hein, ce qui inquiète souvent les marchés financiers. De l'autre côté, on pourrait aussi voir que pour l'or, il n'y a pas eu l'or valeur refuge dans ces moments-là de tension commerciale. Finalement, l'or a été un peu délaissé par les investisseurs. Est-ce qu'on a des explications?
Oui, alors en fait l'explication est un peu indirecte, mais si on regarde ce qui s'est passé effectivement pendant l'été, l'or a perdu à peu près 6%, ce qui était effectivement un peu contre-intuitif. Mais en réalité, les premiers effets de cette guerre commerciale, notamment entre les États-Unis et la Chine, se sont fait sentir sur les monnaies. Et en particulier, la Chine a, on va dire, un peu laissé filer le cours du yuan, ce qui lui permet de contrer en partie les taxes supplémentaires mises par Donald Trump sur un certain nombre des exportations chinoises. Alors l'impact direct de ça, c'est qu'effectivement, la Chine, qui est le plus gros acheteur d'or, s'est retrouvée avec un pouvoir d'achat diminué. Et donc on a eu sans doute un peu moins d'achats de la part des Chinois sur le marché de l'or. Dans le même temps, on a également vu la roupie indienne fortement chuter, elle a un plus bas historique. Et là aussi, l'Inde est le deuxième marché mondial de l'or. Et donc là aussi, sans doute un petit peu moins de demandes de la part du marché indien. La Turquie, enfin, a été fortement touchée à cause de la grosse incertitude politique et économique que connaît ce pays. Et la Turquie est un gros marché sur le marché de la bijouterie, c'est le sixième marché mondial. Donc là aussi, il y a eu un impact très fort. Sur les devises, il y a également eu un autre effet indirect que l'on peut mentionner, c'est que la Chine, dans une mesure d'apaisement, a essayé de mettre des contraintes supplémentaires pour spéculer à la baisse sur le yuan. Or, quand on regarde la corrélation entre le yuan et l'or, il y a une corrélation très forte entre ces deux produits. Et donc, on peut se poser la question de savoir si un certain nombre de spéculateurs n'ont pas utilisé l'or comme un vecteur de jouer la baisse du yuan. C'est une autre des explications, mais l'essentiel de l'explication est dans cette baisse du pouvoir d'achat, effectivement, de la plupart des pays importateurs. Et l'autre élément surtout, c'est qu'en réalité, même si on a eu des craintes et qu'on a toujours des craintes vis-à-vis de ces tensions commerciales, celles-ci ne se sont pas encore matérialisées. Compte tenu du manque de rendement des actifs sécurisés, les investisseurs ont décidé pour l'instant de rester sur les actions. En gros, on n'a pas eu de politique de risk off pour le moment. Et donc, l'or n'a pas été recherché. On le voit bien quand on regarde les taux sur le high yield, par exemple, ces taux sur les obligations à rendement n'ont pas augmenté du tout. Ce qui montre bien qu'on n'est pas encore passé en phase de risk off. Par contre, je pense que si les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis devaient se durcir, probablement après les mid-terms, si Donald Trump ne change pas de ton, je pense que pour l'instant les Chinois laissent un peu filer en se disant que Donald Trump a effectivement des échéances à gérer et que c'est pour ça qu'il a un discours aussi difficile. Si après les mid-terms, début novembre, Donald Trump gardait le même ton, je pense que la situation pourrait empirer et qu'à ce moment-là, l'or retrouverait son rôle de valeur refuge.
Merci Benjamin Louvet d'avoir fait le point avec nous.
Merci à vous.